Clapton.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du jeudi 18 avril 2019. Eric Manirakiza et Kabadou à la présentation, voici les titres.
Publication du rapport du procureur spécial Robert Mueller, il n'y a pas eu de collusion entre l'équipe de campagne de Trump avec Moscou.
Pyongyang demande le retrait du secrétaire d'État américain Mike Pompeo des discussions sur le nucléaire.
Au Mali, les députés doivent examiner demain une motion de censure du Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga.
Au Bénin, l'ex-président Boni Yayi demande l'arrêt du processus électoral en cours.
Au Soudan, les manifestants maintiennent la pression pour en finir avec l'ensemble du régime Omar El-Béchir.
Ne manquez pas dans 10 minutes les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Le président américain Donald Trump s'est réjoui des conclusions de l'enquête russe. Le rapport du procureur spécial Robert Mueller a été rendu public aujourd'hui. Le point avec Abdulrahman Dia.
Pendant la publication du rapport, le président Donald Trump a lancé depuis la Maison-Blanche « C'est un bon jour pour moi ». Il ne faudra jamais que cela arrive à un autre président, cette arnaque, a-t-il ajouté à propos d'une enquête qu'il a toujours qualifiée de chasse aux sorcières. Plus tôt, le président américain avait exulté sur Twitter en faisant une référence à la célèbre série Game of Thrones. Pas de collusion, pas d'obstruction. Pour les rageux et les démocrates de la gauche radicale, c'est game over. La publication a été précédée par une conférence de presse du ministre de la Justice Bill Barr. Le document de plus de 400 pages a été expurgé de ses données confidentielles. Le procureur spécial Robert Mueller établit l'absence d'entente entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou, mais dit ne pas être en mesure d'exonérer le président américain des soupçons d'entrave à la justice.
Idriss Fall a recueilli la réaction du républicain Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
C'est un rapport de 400 pages. Tout le monde est en train de le lire, analyser. Mais il y a certaines conclusions qu'on peut tirer. D'abord, on peut dire que les Russes ont fait un grand effort pour influencer notre élection. Ils jouaient en faveur de Trump et ils n'aimaient pas Hillary. Deuxièmement, il y avait des discussions entre la campagne de Trump avec des agents de la Russie, des gens du service de renseignement. M. Mueller a dit qu'il n'y avait pas de preuve qu'il y avait un complot criminel. Troisièmement, président Trump a fait un grand effort d'annuler l'enquête. Il a renvoyé des gens, il a fait tout pour empêcher le rapport de Mueller. Ça montre qu'il y a des choses qu'il a fait qui sont embarrassantes. Et finalement, ce qu'il craignait, c'est que les Américains vont dire qu'il n'a pas gagné l'élection en façon légitime, qu'il a gagné à cause des Russes, parce que l'élection était très serrée. Il avait moins de votes que Hillary Clinton. Donc, beaucoup de gens vont dire qu'il n'a pas été élu à cause de ses efforts, mais à cause des Russes. C'est ça ce qu'il craignait beaucoup.
Pour le moment, le président Trump a dit que game is over, le jeu est fini.
Oui, c'est fini. Mais maintenant commencent les enquêtes des commissions du Congrès. Les démocrates vont tout faire pour essayer de faire du mal au président Trump. Et aussi, Mueller a trouvé certaines preuves des actes criminels qui n'avaient rien à faire avec les élections, qui avait des évasions d'impôts de Trump dans ses affaires. Et le cour criminel de New York est en train de préparer un cas contre Trump et sa société.
Mais quand il est à la Maison-Blanche, on peut dire quand même qu'il est bien à l'abri.
Il est à l'abri, on ne peut pas le faire traîner devant un tribunal, mais la Chambre des représentants peut voter son empêchement. Je ne crois pas qu'ils vont le faire, mais si le président des États-Unis a fait quelque chose de criminel, comme Nixon a fait il y a 35 ans, la Chambre peut l'empêcher.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Le département d'État américain s'est dit toujours prêt à coopérer avec la Corée du Nord, malgré la demande de Pyongyang, qui veut le retrait du secrétaire d'État américain Mike Pompeo des discussions sur le nucléaire. Et ça, après avoir annoncé l'essai d'un nouveau type d'arme. Nathalie Barge.
Les États-Unis restent prêts à dialoguer avec la Corée du Nord dans le cadre de négociations constructives, a indiqué le département d'État, sans commenter la demande de Pyongyang d'écarter Mike Pompeo. accusant le chef de la diplomatie américaine de manquer de prudence et de maturité, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a demandé la désignation d'un nouvel interlocuteur. Un peu plus tôt, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un test d'une nouvelle arme à guidage tactique selon les médias d'État. Le département américain de la Défense a déclaré hier soir être au courant. L'expression tactique suggère que ce n'est pas un missile balistique à longue portée. Ce jeudi, le Kremlin a annoncé la préparation d'un sommet inédit entre Kim Jong-un et le président Vladimir Poutine fin avril en Russie. Le dossier nord-coréen a été abordé aujourd'hui lors d'une rencontre à Moscou entre l'émissaire américain pour la Corée du Nord, Steven Biegun, et un haut responsable russe.
L'Organisation mondiale du commerce a donné raison aux États-Unis dans leur litige avec la Chine à propos de droits de douane chinois qui frappent les importations de riz, de blé et de maïs. En février dernier, les États-Unis avaient déjà remporté une victoire à l'OMC avec contre la Chine accusée de subventionner sur ses producteurs de blé et de riz. La Chine, rappelons-le, est le plus grand producteur mondial de blé et de riz. Les deux parties ont 60 jours pour faire appel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, c'est demain, vendredi, que sont prévus les débats et votes de la motion de censure contre le gouvernement. Le document a été remis hier au président de l'Assemblée nationale par les députés du RPM et de l'opposition. Déjà, les tractations sont en cours au niveau de l'Assemblée nationale et les états-majors des partis politiques. Les détails de Kassim Traoré.
Une première dans l'histoire politique du Mali démocratique. Des députés de la majorité et de l'opposition se donnent la main pour invincer le gouvernement. Sori Kouriba, élu du RPM, a remis le document de la motion de censure contre le gouvernement au président de l'Assemblée nationale.
Vous savez qu'aujourd'hui, le pays va très mal. Je crois qu'aujourd'hui, les intervenants l'ont beaucoup expliqué en long et en large. Nous avons décidé un certain nombre de députés de la majorité comme de l'opposition, déposer une motion de censure comme l'article 96 de notre règlement nous autorise. À cet instant, je vous remets la motion de censure de certains nombres de députés de la majorité et de l'opposition.
Aujourd'hui, les élus de la nation jugent non satisfaisante la gouvernance de Soumaïla Boubey Maïga. Dès le dépôt de cette motion de censure, le président de l'Assemblée nationale a informé le président de la République. Actuellement, des tractations sont en cours entre les partisans de la motion de censure et ceux qui sont contre, car il s'agit de réunir 98 députés, soit 2/3 du Parlement, pour invincer le gouvernement actuel. L'actuel Premier ministre et ses partisans veulent se battre jusqu'au scrutin qui se fera à bulletin secret. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'ancien président de la Cour suprême du Nigeria, Walter Onogen, a été reconnu coupable de corruption et condamné à 10 ans de suspension par le tribunal du code de conduite.
Au Sénégal, le gouvernement entérine la suppression du poste de Premier ministre. Il a adopté ce mercredi un projet de révision de la Constitution devant aboutir à cette décision du 6 avril du président Macky Sall.
L'ex-président béninois Boni Yayi a demandé aujourd'hui à arrêter le processus électoral en cours au Bénin, estimant que les législatives ne pourraient pas se tenir sans l'opposition.
Il a demandé donc aux Béninois de s'unir dans un sursaut patriotique et de demander un parlement inclusif pour garantir la stabilité et la paix. Les Égyptiens votent samedi pour prolonger de 2 ans l'actuel mandat du président Abdel Fattah al-Sissi et lui offrira la perspective d'un troisième mandat jusqu'en 2030.
Les manifestants au Soudan maintiennent la pression pour en finir avec l'ensemble du régime du président Omar el-Béchir. Ils exigent la dissolution du conseil militaire de transition qui lui a succédé et l'instauration d'un pouvoir civil. Depuis le 6 avril, des milliers de Soudanais campent devant le QG de l'armée malgré la chaleur accablante en journée.
Au moins 205 personnes ont été tuées et 913 blessées en 2 semaines de combat depuis le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli. Souligne l'OMS. Par ailleurs, l'OIM fait état de 25 000 déplacés.
La Cour suprême ougandaise a validé aujourd'hui la suppression de l'âge limite à de 75 ans pour la présidence. Cette disposition a été adoptée fin 2017 et permet au président Museveni, au pouvoir depuis 1986, de se représenter en 2021.
Brazzaville inaugure son unique salle de cinéma après trois décennies. Elle dispose de 300 places et d'une scène extérieure ouverte conçue pour accueillir des concerts et autres événements.
La liste des 19 films en compétition pour la Palme d'Or à Cannes est connue. Atlantique de la Sénégalaise Mati Diop, son premier long métrage, parle de jeunes Sénégalais prêts à braver la mer en quête d'un avenir meilleur. Autre long métrage, Les Misérables de Lajli. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco signée d'Anit Talani.
Vivendi, le conglomérat français de médias de masse, a inauguré hier la première salle de cinéma de son projet Canal Olympia au Congo-Brazzaville. Avec ses 300 places, Canal Olympia propose 19 films par semaine, 6 jours sur 7, à 1500 francs CFA le ticket pour les adultes, 1000 francs CFA pour les enfants de moins de 12 ans et 5000 francs CFA pour les avant-premières et autres programmes spéciaux. La salle diffusera tous les types de films du monde entier, sans oublier les films africains et les dessins animés. Les femmes qui exploitent le cacao en Côte d'Ivoire vont recevoir une aide de 2 millions de dollars pour créer 300 caisses d'épargne et permettre à 500 caisses déjà existantes d'avoir accès au marché financier. Pour l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, il s'agit du renouvellement d'un partenariat public-privé par le biais d'un programme géré par l'USAID et la Fondation mondiale pour le cacao. Pour terminer, en Afrique du Sud, des milliers de salariés de la compagnie minière Sibanye-Stillwater, deuxième producteur d'or du pays, ont mis fin hier à une grève de 5 mois après avoir obtenu une augmentation de salaire pour les 3 prochaines années.
Place à présent à la page sportive qui nous est présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
La CAN des moins de 17 ans en Tanzanie, l'édition 2019 et deuxième victoire des Lionceaux du Cameroun.
Oui, deuxième victoire synonyme de qualification pour les Lionceaux indomptables pour les demi-finales après cette victoire 2-1 sur le Maroc ce jeudi. La rencontre n'a pas été facile pour les jeunes Camerounais qui ont eu affaire à une équipe tenace du Maroc qui a d'ailleurs ouvert le score à la première mi-temps. C'est en seconde partie que les Camerounais égalisent avant de prendre l'avantage à la 92e minute. Une victoire qui qualifie les Lionceaux pour les demi-finales, mais aussi pour le mondial de la catégorie au Brésil.
Et le hôte est lui éliminé de sa propre CAN.
Oui, la Tanzanie est déjà sortie de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, édition 2019 qu'elle organise chez elle. Le pays hôte a été éliminé mercredi par l'Ouganda après une lourde défaite 0-3. Les Serengeti Boys, comme on les appelle, s'étaient déjà inclinés 4-5. C'était devant le Nigeria en ouverture.
CAN-Égypte 2019, le stage du Sili National aura lieu à Marrakech du 1er au 15 juin.
Oui, le Sili National débutera son stage de préparation pour la CAN à partir du 1er juin à Marrakech au Maroc où la Guinée va rencontrer le 11 juin en match amical le Bénin. Le Bénin déjà qualifié pour cette même CAN et selon un communiqué de la Fédération guinéenne de football, le Sili National y restera jusqu'au 15 juin avant de rallier Alexandrie en Égypte où il jouera également un autre match amical, cette fois-ci contre les Pharaons d'Égypte, pays organisateur le 16 juin. Lors de la CAN elle-même, la Guinée évoluera dans la poule B en compagnie du Nigeria, de Madagascar et du Burundi.
Retour sur les matchs de la Ligue des Champions. Hier, Tottenham a éliminé Manchester City et affrontera l'Ajax en demi-finale.
Ce quart de finale 100% anglais entre les Citizens et les Spurs a livré un spectacle incroyable avec 7 buts, dont 4 dans les 11 premières minutes et une intensité de tous les instants. Le scénario rocambolesque a tourné en faveur de Tottenham, battu 4-3 mais qualifié grâce à sa victoire 1-0 du match à aller. Le club londonien affrontera donc la jeunesse dorée et décomplexée de l'Ajax en demi-finale.
Dans l'autre match, Liverpool a étrié Porto 4-1 et affrontera Barcelone en demi-finale.
Le FC Barcelone de Lionel Messi, meilleur buteur de la compétition avec 10 buts. Les demi-finales donc auront lieu les 30 avril et 1er mai pour les matchs aller. Les matchs retour auront lieu les 7 et 8 mai.
Merci Bagassi.
Merci Ekia.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et Kabadou et Eric Manirakiza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
RDC, deuil national après le naufrage d'un bateau qui a fait lundi dernier au moins 142 disparus et 13 morts confirmés jusque-là. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu sur les lieux et a pris un certain nombre de mesures. Eddy Sango a joint le directeur de la presse présidentielle, Abraham Luakambuanga.
Les grandes décisions sont celles-ci. Premièrement, 24 heures de deuil national sur toute l'étendue de la République, avec le drapeau en berne, mais le travail va continuer. Deuxième grande décision, 1000 gilets sauvetages ont été remis à la localité de Kaléré, de manière à ce que tous les voyageurs qui vont naviguer sur le lac soient porteuses de ces gilets de sauvetage. Troisième grande décision, le président a apporté une contribution financière au deuil qui sera aux intentionnés, notamment, qui vont se tenir à Kaléré. Quatrième grande décision, c'est le propriétaire ou les propriétaires du dit bateau seront traduits en justice de manière à ce qu'une enquête puisse démontrer la responsabilité des uns et des autres. Cinquième grande décision, la route qui relie Kivu et Bukavu à Kaléré, Bukavu, bâtiment du Sangani, va finalement, dans très peu de temps, être sujette à des travaux pour que nous puissions contrebalancer le trafic en fluvial. Donc, voici les grandes décisions que le président de la République a prises. La dernière, excusez-moi, j'ai oublié, c'est l'appel aux parents dont les enfants ou les parents sont membres des bandes armées ou groupes armés, de demander à leurs parents ou frères de pouvoir déposer les armes et de réintégrer la société. Voilà ce qui a été la grande journée aujourd'hui à Kaléré, à la grande satisfaction de la population locale.
Mais quel constat avez-vous fait sur place? Le nombre de morts, est-ce qu'il y a encore espoir de retrouver des vivants, des survivants?
Écoutez, le nombre de morts jusque-là, comme je vous l'ai dit, s'élève à 142. 10 corps ont été retrouvés aujourd'hui, 3 le jour de l'accident, ce qui les porte à 13. Vous comprenez que la grande majorité, plus d'une centaine, sont encore perdus au niveau du lac. Et il faudra un travail minutieux des plongeurs pour que ces corps puissent être retrouvés. Et comme je l'ai dit, cette catastrophe qui a endeuillé toute la région et pratiquement tout le pays a appelé le président à faire ce déplacement et à prendre les grandes décisions dont je vous ai parlé en amont.
Est-ce qu'on connaît les causes de cet accident?
On parle d'un ouragan, donc on parle d'un grand coup de vent, mais souvent les grandes causes, c'est le non-respect par les armateurs du tonnage auquel ils sont soumis. Cela se constate également sur le fleuve Congo et sur les autres rivières qui sont navigables, parce que l'habitude, par manque de contrôle, par manque de respect des consignes, font qu'il y a beaucoup d'accidents de ce cas. Et pour cela, le président de la République a pris ces mesures qui vont pousser dans très peu de temps qu'il y ait un renforcement au niveau du respect des aspects techniques, et cela sera renforcé par une police maritime qui sera plus de mieux dotée et surtout qui devra être prête à faire son travail.
Abraham Luakambuanga, directeur de la presse du président Félix Tshisekedi.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une bonne nouvelle pour les femmes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest, elles vont bientôt bénéficier du financement de leurs projets. L'annonce a été faite hier à Abidjan lors d'un sommet qui a réuni plusieurs acteurs du monde de la finance internationale, ainsi qu'Ivanka Trump, fille et conseillère du président Donald Trump. Plus de précisions avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tonkara.
Aucune banque ne voulait de moi. Et puis ils ne croient même pas à mon activité. Ils disent que non, la femme n'est pas capable. Pourquoi? Parce que je suis femme, je ne suis pas capable.
Amidou Abdoulaye Nafissa est nigérienne. Elle est la patronne d'une entreprise spécialisée dans la production et la distribution d'aliments pour bétail. Comme elle, de nombreuses femmes entrepreneurs se heurtent à de nombreux obstacles pour financer et faire prospérer leurs activités. Face à ces femmes entrepreneurs venues de toute l'Afrique de l'Ouest, Ivanka Trump était porteuse d'une bonne nouvelle. Il s'agit du WIFI, l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Ce programme vise la croissance et la prospérité des nations ainsi que leur sécurité. Les capitaux arrivent et nous demandons à tous ceux qui sont ici de se joindre à nous pour mener des réformes politiques en vue de promouvoir ces capitaux et permettre aux femmes de prospérer. Hamidou Abdoulaye Nafissa a applaudi cette annonce comme toutes les femmes présentes à ce sommet. Elle va bientôt bénéficier de ce financement, ce qui lui permettra de consolider ses activités.
La prochaine étape, c'est d'industrialiser, parce que actuellement, c'est semi-industriel. C'est semi-industriel parce que j'ai fait faire ma machine localement. Maintenant, c'est que c'est vraiment industrialiser, être la seule femme au Niger qui ose industrialiser dans la fabrication d'aliments bétail à base des résidus de récolte.
Nabou Fall, chef d'entreprise dans le domaine de l'innovation et de la communication, applaudit aussi l'annonce de cet appui aux femmes entrepreneurs.
Je trouve que c'est une très très belle initiative. On a beaucoup de problèmes, de difficultés, nous les femmes entrepreneurs africaines. Donc nous avons vu qu'il y a des lignes de crédit qui vont être mises à la disposition des femmes entrepreneurs. Donc je peux vous dire qu'on est toujours en train de jongler. Quand on a une commande de clients, on est obligé de trouver de l'argent. Comme on peut, soit on récupère un paiement que quelqu'un nous devait, soit on fait la course vers ceux qui nous devaient de l'argent avant pour pouvoir financer les contrats futurs.
Pour Kandia Camara, ministre ivoirienne de l'éducation nationale, l'autonomisation de la femme passe inéluctablement par la scolarisation de la jeune fille.
Aujourd'hui, nous avons en projet la construction de 7 lycées de jeunes filles avec internat pour venir accroître encore les capacités d'accueil des jeunes filles, parce que toutes les statistiques démontrent que quand elles sont dans un environnement sécurisé, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes dans toutes ces conditions-là pour que la femme puisse avoir un niveau d'instruction et d'éducation qui lui permet de s'insérer facilement dans le tissu socio-économique.
Plus d'un milliard de dollars devront être mobilisés à terme dans le cadre de ce programme dont l'idée a été lancée en juillet 2017 à Hambourg en Allemagne lors du sommet du G20. Le Wi-Fi est financé par une dizaine de pays dont les États-Unis, le Canada, le Japon, la Chine, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie. Cette semaine dans Washington Forum, gros plan sur le Soudan. La destitution du président Omar el-Béchir n'aura pas suffi à calmer la rue. Les manifestants, toujours plus nombreux devant le QG de l'armée, maintiennent la pression dans l'espoir d'obtenir un pouvoir civil et réclament la dissolution du Conseil militaire de transition. Une crise qui inquiète la communauté internationale. Lundi, l'Union africaine a menacé de suspendre le Soudan si l'armée ne quitte pas le pouvoir d'ici 15 jours. Jusqu'où ira ce bras de fer? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Le Cameroun était le deuxième producteur mondial de café. Aujourd'hui, il occupe la 31e place. La production est tombée de 156 000 tonnes en 1990 à 25 000 tonnes. Alors que les exportations dominent toujours, le Cameroun s'intéresse à la consommation locale de café pour stimuler sa production. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu au festival annuel du café à Yaoundé. Son reportage est rendu par Idriss Fall.
Les amateurs de café savourent le Robusta et l'Arabica camerounais dans un village de dégustation installé dans la capitale. Cyril Yuba, festivalier.
Le fait de déguster du café aujourd'hui peut m'amener à déguster davantage. Le café était assez bon.
Festi Coffee vise à encourager les 24 millions de Camerounais à consommer la fève locale. Le thème du festival cette année, c'est « Agissons en faveur du café camerounais ». Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre camerounais du commerce.
Vous imaginez la taille du marché. Cela nous impose de produire davantage, de produire mieux, en conjuguant nos efforts pour satisfaire ce vaste, très vaste marché.
Le Cameroun était autrefois l'un des plus grands producteurs de café au monde. Mais la production est passée d'un niveau historique de 150 000 tonnes en 1990 à près de 25 000 tonnes aujourd'hui. Pour les initiés, la chute vertigineuse des prix a découragé la culture du café. Pierre-André Junior est directeur de Torrecam, une usine de torréfaction du café.
Plusieurs choses qui devraient évoluer. La consommation locale déjà, qui n'est pas encore ancrée dans les mœurs. Les gens ont tendance à avoir peur du café, on ne sait pas pourquoi. Et donc on mise beaucoup sur des événements comme Festi Coffee pour démontrer aux gens les bienfaits du café, leur faire goûter le goût d'un café, à quoi ça ressemble.
Le Cameroun septième plus grand producteur d'Afrique, s'intéresse également à d'autres marchés de la région. Pierre-André Zignor, directeur de Torecam.
Au niveau de la production, donc, nous on va exporter à peu près 90% de notre production sur nos marchés de la sous-région qui vont de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique du Sud, mais essentiellement dans nos pays frontaliers, le Nigeria, le Gabon, le Congo, le Tchad, voilà, tout ça sont nos marchés les plus dynamiques. Et ensuite, on va revendre à peu près 10% de la production en local, ici au Cameroun.
Les autorités camerounaises espèrent changer tout cela en encourageant également les quelques 300 000 fonctionnaires à boire plus de café.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'agriculture sur le continent africain est l'un des moyens de subsistance le plus important pour une grande partie de la population. Plus de 60% du continent dépend de l'agriculture. Il est donc nécessaire de trouver les moyens pour améliorer la production. C'est dans ce cadre qu'un entrepreneur béninois, Gildas Zodomé, a fondé Bifoto, une entreprise qui produit de l'engrais naturel. Nous allons donc à Cotonou pour le rencontrer. Le récit est de Lionel Gaïma.
Biofito est une entreprise de production d'engrais basée au Bénin. Leur spécialité est la production d'engrais 100% bio. L'entreprise a été fondée par Gildas Zodomé avec pour objectif d'aider les agriculteurs à améliorer leur rendement ainsi que protéger l'environnement des effets néfastes des engrais chimiques. Gildas Zodomé, entrepreneur et fondateur de Biofito.
Les potentiels de nos engrais sont énormes. Je vous donne quelques exemples. Vous voyez par rapport à nos engrais, la durée de conservation des cultures qui est un peu allongée. Si vous prenez la tomate par exemple, en utilisant les produits conventionnels, 1-2 jours, la tomate commence à pourrir, 3 jours. Alors que si on utilise même nos intrants, 1 semaine, 10 jours, c'est encore intact. Vous voyez, c'est un avantage pour les agriculteurs. En dehors de cet avantage, le rendement est meilleur.
L'engrais agrobio est devenu favori chez les producteurs qui trouvent les résultats des productions avec ces engrais favorables. Marc Toukpa, producteur à base des engrais de Biofito.
Agrobio m'a permis d'améliorer mon rendement et d'accroître la production. Et de limiter aussi les pertes. Par exemple, vous mentir, les bonnes dames, moi, mais la plupart de mes clientes, en ce qui concerne les papas solo, livrent ça au Nigeria. Et on était confronté à des problèmes où la résistance de ces fruits, soit c'est avant que ça n'aille là-bas, ça se pourrisse très vite, parce que c'est dû aux engrais chimiques que nous utilisons en temps. Donc il faut trouver une solution palliative à ça. Donc c'est de là que moi j'ai commencé par utiliser les engrais agro-bio.
À part être une source de meilleure production pour les agriculteurs, Biofito est aussi une source d'emploi pour les jeunes du Bénin. Jean Ouéteré, il est employé à Biofito.
Moi, je ne connaissais rien dans le domaine. Donc, c'est ici que j'ai appris tout ce que je fais ici. Donc, c'est grâce à ça que je puisse subvenir à mes besoins. Bon, mes familles vivent de ça, mes amis aussi.
Les engrais de Biofito ont eu un accueil positif au Bénin et dans les pays voisins. Désormais, ils exportent au Burkina Faso, Togo et la Côte d'Ivoire. Dans le futur, ils comptent exporter en Europe et en Asie.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Jogir. À la présentation, Eric Manirakiza et Eki Abadou.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.